Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Bien chers frères et sœurs, bonjour. C'est une joie pour moi de pouvoir passer ce temps avec vous dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ au travers de cet enseignement qu'il met à la disposition de son Église aujourd'hui. Et je m'en vais tout de suite vous donner l'intitulé de notre enseignement de ce jour. Et l'intitulé de notre enseignement de ce jour, c'est « Appeler à la liberté et non au libertinage ». Je vais répéter cela. Appeler à la liberté et non au libertinage. Dans l'épître aux Galates, notre frère Paul, au chapitre 5, au verset 1er, déclare « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Alléluia! Alléluia! Ces derniers temps, je me pose souvent les questions de savoir pourquoi l'Église du Seigneur manque tant de puissance. Pourquoi si peu de miracles dans nos églises? Alors même que le Seigneur a déclaré dans l'évangile de notre frère Marc au chapitre 16, du verset 17 au verset 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est ce que déclare la parole de Dieu. Et vous et moi, nous voyons dans ce qui nous est dit là, le Seigneur Jésus-Christ déclare les miracles et non pas le miracle. Jésus-Christ ne parle pas d'un miracle, même pas de deux miracles, mais Jésus-Christ parle d'une profusion de miracles dans son Église. Alléluia! Donc, la volonté divine est qu'il y ait beaucoup de miracles dans l'Église de Jésus-Christ. Beaucoup de miracles qui se font dans l'Église et qui se font au travers, par l'Église du Seigneur. Et cela était vrai hier, et cela est d'autant plus vrai encore aujourd'hui. Alléluia! Pourquoi donc j'affirme avec véhémence que cette volonté divine était valable hier et qu'elle l'est encore aujourd'hui? Eh bien, deux raisons principales motivent ma véhémence. La première de ces raisons, c'est que la Bible déclare dans les livres du prophète Malachi au chapitre 3 au verset 6, et c'est l'éternel Dieu Jéhovah qui parle. Il déclare « Car je suis l'Éternel et je ne change pas. » Alléluia! Et en hébreu, dans l'épître aux Hébreux, notre frère Paul, au chapitre 13, au verset 8, déclare « Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. » Alléluia! Et je dirais ici que notre frère Jacques vient enfoncer le clou dans la lettre qu'il a écrite au chapitre 1er, au verset 17, Jacques, notre frère Jacques, déclare qu'il n'y a aucun changement ni aucune ombre de variation en notre Dieu. Alléluia. Il n'y a aucun changement ni aucune ombre de variation en notre Dieu. Alléluia. Ce qui revient à dire, très concrètement, que le Dieu des miracles ne change pas. Cela veut dire que celui qui a partagé en deux les eaux de la mer des roseaux, les eaux de la mer rouge, est toujours le même. Le Jésus-Christ qui allait de lieu en lieu, de village en village, de ville en ville, guérissant les malades et délivrant ceux qui étaient sous l'empire des démons, est toujours le même. Voilà les grandes nouvelles pour l'Église. Alléluia. Et la deuxième raison qui motive ma véhémence, c'est que la Bible déclare encore en Éphésiens chapitre 3 verset 10, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, j'insiste, aujourd'hui, par qui? Par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, par l'Église. Donc, depuis que Jésus-Christ a bâti son Église, elle est la seule et unique entité mandatée pour faire connaître aux puissances infernales la sagesse infiniment variée de Dieu, de Jéhovah. Je vais répéter cela pour que cela soit très clair. Donc, depuis que Jésus-Christ a bâti son Église, elle est la seule et unique entité mandatée par lui pour faire connaître aux puissances infernales la sagesse infiniment variée de Jéhovah. Et j'attire notre attention à tous sur l'adverbe « aujourd'hui ». Alléluia. Pourquoi je le fais? Car aujourd'hui, ici, parle de l'Église de tous les temps et de toutes les époques. Alléluia. De cette Église qui traverse les siècles, de cette Église qui traverse les époques, de cette Église qui traverse les temps. Alléluia. Alors, comment se fait-il que cette Église des temps de la fin n'est plus cette Église flamboyante et rayonnante? Comment se fait-il que cette Église n'est plus cette Église militante et conquérante, comme l'a été du reste l'Église des Actes des Apôtres? Parce que mon frère, ma sœur, j'aimerais que tu saches que l'Église des Actes des Apôtres, celle qu'on appelle l'Église primitive, l'Église de l'origine, eh bien, elle était flamboyante, elle était rayonnante, elle était militante, elle était conquérante. Alléluia. Maintenant, on en viendra à se poser les questions suivantes. L'Église aurait-elle changé? Y aurait-il plusieurs sortes d'Églises? Le Dieu de l'Église d'hier ne serait-il plus le Dieu de l'Église d'aujourd'hui? Le Dieu de l'Église aurait-il tout simplement changé? Eh bien, ce sont là des questions que se posent en général tous les enfants de Dieu qui soupirent, j'insiste, qui soupirent véritablement à ce que le nom du Père Céleste soit sanctifié, qui soupire à ce que le règne du Père Céleste vienne, qui soupire véritablement à ce que la volonté du Père Céleste soit accomplie. Mon frère, ma sœur bien-aimée, l'Église des temps de la fin manque de puissance et de flamboyance. Elle manque de rayonnement spirituel à cause de son manque de militantisme et à cause de son manque de caractère. Le manque de caractère de l'Église est dû au fait, entre autres, que cette Église a perdu de vue le fait qu'elle est en rapport avec l'arbre de vie. Qu'est-ce que je veux dire par là, quand je déclare que l'Église a perdu de vue qu'elle est en rapport avec l'arbre de vie? Eh bien, je suis tout simplement en train de dire que l'Église ne sait plus qu'elle est céleste. L'Église est céleste, ma sœur. L'Église est céleste, mon frère. L'Église ne sait plus, mais ne sait plus du tout qu'elle est l'ambassadrice du royaume éternel et glorieux du Dieu vivant sur la terre. En effet, l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui se trouvait dans le jardin d'Éden était un arbre terrestre, alors que l'arbre de vie est un arbre céleste. Alléluia. L'Église a donc un besoin urgentissime de retrouver son caractère et sa dimension céleste. Alléluia. Alors vous me direz, mais où est le problème? Quel est donc le problème? Eh bien, l'Église, le problème, mon frère, ma sœur, c'est que l'Église des temps de la fin a perdu son magistère, qui est l'esprit conquérant qui lui a été insufflé par son époux au travers du merveilleux Saint-Esprit. Oui, l'Église a perdu son magistère. Alléluia. L'Église s'est fourvoyée. L'Église s'est perdue en chemin, mon frère, ma sœur. Alors vous me poserez la question de savoir, mais au juste, tu nous parles de l'Église militante. Mais c'est quoi, au juste, l'Église militante? Eh bien, l'Église militante, mon frère, ma sœur, c'est l'Église qui est instruite, qui est conduite, qui est conseillée et qui est gardée par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est cela l'Église militante. Celle qui est véritablement instruite, guidée, conduite, conseillée et gardée, protégée par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc l'Église n'est militante que lorsque le Saint-Esprit occupe véritablement la place qui est la sienne au sein de l'Église. Et quelle est la place du Saint-Esprit au sein de l'Église? Eh bien, la place du Saint-Esprit au sein de l'Église, c'est que le Saint-Esprit doit être absolument, j'insiste, absolument être le seul et unique instructeur de l'Église. Non pas un prophète, non pas un apôtre, non pas un docteur, non pas un évangéliste, non pas un pasteur, mais c'est le Saint-Esprit qui instruit l'Église. Deuxièmement, le Saint-Esprit est le seul, il doit absolument être le seul et unique guide de l'Église. C'est le Saint-Esprit qui guide, qui conduit, qui inspire, qui illumine l'Église. Alléluia. Troisièmement, le Saint-Esprit doit être absolument le seul et unique conseiller de l'Église. Et quatrièmement, le Saint-Esprit doit être le seul et unique protecteur de l'Église. Alléluia. Alléluia. L'Église aujourd'hui, mon frère, ma sœur, ne conquiert plus rien. Oui, l'Église ne conquiert plus rien aujourd'hui. Au contraire, elle ne cesse de perdre du terrain sur l'ennemi. Bien sûr, certaines âmes bien pensantes me traiteront d'oiseaux de mauvais augure. Mais qu'à cela ne tienne, je me permets ici de leur dire tout simplement que pour ce qui concerne les affaires de mon Père Céleste, je me dois d'être pragmatique, réaliste, afin de ne pas laisser l'avantage à Satan, car je n'ignore pas ses desseins maléfiques. Mon frère, ma sœur, qu'est-il écrit en 2 Corinthiens chapitre 2 au verset 11? N'est-il pas écrit « afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins ». Et nous savons, nous connaissons par la parole de Dieu quels sont les desseins de Satan le diable. L'ennemi ne vient que pour dérober, égorger, piller, ravager, tuer. Et cela est écrit dans l'évangile de Jean au chapitre 10 au verset 10. Alléluia. Il se trouve justement que la mission que le glorieux époux a assignée à son épouse l'Église constitue en elle-même un appel à la conquête, pour ne pas dire un appel à la reconquête. Alléluia. Pourquoi alors je parle de conquête? Pourquoi je parle de reconquête? Mais mon frère, ma sœur, parce que l'Église se doit de piller et de dépeupler le royaume des ténèbres. En faisant quoi? En allant vers les perdus. Qui sont les perdus? Ce sont tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais elle n'a pas que ça à faire. L'Église doit aussi aller reconquérir ce que l'on appelle les rétrogrades. Et qui sont les rétrogrades, mon frère, ma sœur? Ce sont tous ceux qui ont abandonné leur foi, qui ont goûté aux choses célestes et qui, pour des diverses raisons, se sont détournés de leur foi. Mais nous ne disposons pas d'assez de temps aujourd'hui pour parler des raisons qui poussent les hommes à se détourner de leur foi. Nous le ferons certainement plus tard dans un autre enseignement. Alléluia. Mon frère, ma sœur, concernant ce que nous sommes en train de dire, cette volonté qui doit être celle de l'Église de conquérir et de reconquérir, eh ben, il y a un verset de l'Écriture sainte qui me parle souvent. Et ce verset se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 33, le verset premier. Que dit Ésaïe 33, 1? Malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé, qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. Voilà la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, mon frère, ma sœur, ton Seigneur, ton Sauveur, mon Seigneur, mon Sauveur, notre Sauveur, notre Seigneur, a mis fin au ravage et au pillage de Satan et de son royaume. Jésus a mis fin à toutes ces choses. Maintenant, à nous de saisir, à l'Église de saisir la victoire, afin véritablement de piller celui qui l'a pillé, de ravager celui qui l'a ravagé. Alléluia. 1 Jean 3, 8 nous dit, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth apparu afin de détruire toutes les œuvres, mais alors toutes les œuvres du diable. Alléluia. Et Jésus-Christ, qui est l'Amen de l'Éternel, qui est le oui de Dieu aux hommes, confirme de sa propre bouche cette totale et définitive destruction de cette œuvre de pillage, de ravage et de spoliation de Satan et de son royaume de ténèbres. Il le confirme de sa bouche. En Jean 19, 30, alors qu'il est sur la croix, alors qu'il vient de boire la coupe jusqu'à la lie, avant de rendre son esprit à son Père, Jésus-Christ déclare glorieusement « Tout est accompli !» Alléluia ! « Tout est accompli !» Je veux que ces mots résonnent dans ton cœur. « Tout est accompli !» Alléluia ! Et en Jean 17, au verset 4, alors qu'il est en train de s'adresser à son Père, dans ce que moi j'appelle la prière testament de Jésus-Christ, la prière sacerdotale, Jésus-Christ déclare à son Père, « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Jésus-Christ, mon frère, ma sœur, le Seigneur de l'Église, l'époux de l'Église, a achevé l'œuvre que le Père lui avait donnée à faire. Et je me souviens là de ce séminaire qui a eu lieu en Suisse et dont l'orateur était ce merveilleux serviteur de Dieu qu'est le pasteur Mamadou Karambiri. Il nous a parlé de l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Pendant 3 jours, nous avons été enseignés et nous avons entendu des choses extraordinaires. Et ces choses que j'ai entendues, mon frère, ma sœur, m'ont amené à désirer davantage, à avoir encore plus la soif de servir ce grand Dieu qui est le nôtre. Le pasteur Mamadou Karambiri nous a enseigné des vérités extraordinaire, mon frère, ma sœur. Et je bénis véritablement ce grand Dieu pour son serviteur, pour tous ces serviteurs qui sillonnent le monde et qui apportent la vérité aux hommes, cette vérité qui les a franchis. Alléluia. Alléluia. Il est donc évidemment question, mon frère, ma sœur, pour l'Église, de conquérir de nouveaux territoires, mais également de ne pas abandonner les territoires perdus et gagnés par l'ennemi des âmes. Et pour ce faire, l'Église du Seigneur aujourd'hui doit mettre un point d'honneur à reconquérir les territoires perdus. Alléluia. Et ces territoires perdus, ce sont les chrétiens rétrogrades, ceux qui se sont détournés de leur foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Cela est écrit en 1 Timothée 4, verset 1. Car l'Esprit dit expressément que dans les temps de la fin, beaucoup se détourneront de leur foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Et cela, la cause de cela, c'est tous ces faux docteurs qui portent la marque de la flétrissure dans leur cœur. C'est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Alors, quelle est la mission que le Seigneur a confiée à son Église? En Matthieu chapitre 28, du verset 19 au verset 20, il est dit, « Allez, allez !» Donc, mettez-vous en mouvement, ne restez plus assis. Ne restez plus là à contempler le ciel. Maintenant, je vous ai appris, je vous ai montré comment il faut faire. Allez maintenant. C'est écrit, allez. Faites de toutes les nations, pas d'une nation, pas de deux, mais de toutes les nations, les disciples. Faites-en des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, concrètement, la mission consiste à faire des disciples et non pas de membres. Et je tiens à le dire ici, et je le dis sans embâge, le terme « membre », quand on parle de l'Église, me dérange beaucoup. Parce que j'y perçois une certaine subjectivité. Je recuse ce mot « membre » quand on parle de l'Église de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas parlé de membre, nous venons de lire le verset. Il a dit « faites de toutes les nations des disciples ». Il n'a pas dit « faites de toutes les nations des membres ». Alléluia. Pourquoi cette distinction est importante? Pourquoi je tiens absolument à faire le distinguo entre ces deux termes? Parce que, à mon sens, à moi, Et la Bible le déclare en Jean chapitre 8 au verset 31, que les disciples, ce sont ceux qui demeurent dans la parole, qui demeurent dans la volonté de Dieu. Voilà les disciples. Alléluia. Donc, quand Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », donc Jésus nous invite l'Église à former des gens qui sont capables de garder la parole de Dieu, de se mouvoir dans la parole de Dieu, de vivre ce que la parole de Dieu recommande. Alléluia. Alléluia. Cela, c'est ce qu'on appelle les participants à la nature divine. Alors que les membres, que font les membres, mon frère, ma sœur? Qu'est-ce qu'ils font les membres? Ben, ils viennent les dimanches à l'église. Et parfois, en Europe, ici, comme il fait froid, alors les membres servent de chauffage. Ils viennent chauffer les bancs, ils viennent chauffer les chaises. C'est tout ce qu'ils viennent faire. Mais ils ne participent pas à la nature divine. Alléluia. Alléluia. Donc, les membres, concrètement, les membres viennent juste pour faire un interminable cumul de leurs différences. Alléluia. Alors que les disciples sont multiplicateurs, les membres additionnent les différences. Alléluia. Et nous savons, vous et moi, que notre Dieu ne parle pas d'addition dans sa parole, mais il parle bel et bien de multiplication pour son peuple, pour son Église. Et concernant cette multiplication, cette volonté souveraine de Dieu, quant à la multiplication de son Église, de son peuple, dans les livres de la Genèse, que j'aime appeler le livre du commencement, au chapitre 1er, au verset 12, il est déclaré ceci, je lis pour la gloire de Dieu, « La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. » Alléluia. Donc, la semence selon l'espèce, c'est cela même le principe de la multiplication divine. Je vais répéter cela. C'est tellement important. La semence selon son espèce, c'est cela même le principe de la multiplication divine. Alléluia. Mon frère, ma sœur, ma bien-aimée, mon bien-aimé, toi et moi, nous savons très bien qu'il est impossible à un pommier de donner pour fruit des poires. Et encore moins à un manguier de donner pour fruit des pommes. Nous le savons. Et la Bible déclare, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Alléluia. Et Dieu, après avoir créé l'homme et la femme, à son image et selon sa ressemblance, les bénit au travers de sa volonté souveraine de les voir multiplier, non pas additionner, mais multiplier. En Genèse chapitre 1er au verset 28, il est écrit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et ça continue. Eh ben, justement, cette volonté divine, quant à la multiplication, doit nous faire comprendre maintenant pourquoi Dieu n'a pas créé la femme de la même manière que l'homme. Alléluia. Nous devons maintenant comprendre pourquoi il a pris une côte de l'homme pour en faire la femme. Il a pris une côte d'Adam pour faire Ève. Alléluia. Alors, la question c'est, pourquoi alors la femme a été tirée de l'homme? Mais parce qu'elle devait, cette femme devait porter en elle, la semence selon l'espèce de l'homme, puisque l'homme est sorti le premier. Donc, la femme devait absolument porter en elle la semence selon l'espèce de cet homme. Alléluia. Donc, la femme a été tirée de l'homme pour pouvoir revendiquer la même nature que l'homme. Voilà la révélation. Alléluia. Alléluia. Donc, à mon sens, mon bien-aimé, ma bien-aimée, l'Église des temps de la fin a perdu le fil conducteur de sa mission à cause d'un écueil très important, à cause d'un problème très important qu'il y a dans l'Église aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'écueils dans l'Église. Permets-moi, mon frère, permets-moi, ma sœur, aujourd'hui, de parler de l'écueil que j'ai sur mon cœur. Il y en a beaucoup. Mais moi, je veux parler d'un seul écueil, afin que nous puissions avancer. Mais il n'est pas le moindre des écueils. Alléluia. L'Église aujourd'hui a perdu le fil conducteur de sa mission, tout simplement parce que la Bible déclare, et je t'invite à bien lire cela, à bien méditer cela dans la parole de Dieu, en 2 Corinthiens au chapitre 3, du verset 16 au verset 17, il est écrit « Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » La liberté, la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia, alléluia. Donc, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la véritable liberté. Pourquoi je parle de véritable liberté? Eh bien, tout simplement, pour opposer la liberté à cette liberté factice, à cette liberté travestie, à cette liberté édulcorée qui caractérise cette église des temps de la fin. Alléluia. L'église aujourd'hui parle de liberté, mais l'église n'est pas libre. Les enfants de Dieu aujourd'hui parlent de liberté, mais ils ne sont pas libres. Alléluia. Ils sont en train de prétendre vivre dans le système de Dieu qui est le système de la liberté, alors que concrètement, il demeure dans le système de Satan, de ce monde qui est le système de l'avilissement, le système de l'esclavage spirituel. Alléluia. Alors concrètement, quel est cet écueil dont je suis en train de parler aujourd'hui? Eh bien, l'écueil dont je suis en train de parler, c'est le rejet quasi systématique du Saint-Esprit et de son œuvre glorieuse. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, l'Église rejette le Saint-Esprit, rejette l'œuvre glorieuse du Saint-Esprit. Et laisse-moi te dire, ma bien-aimée, permets-moi de te le dire, mon bien-aimé, le Saint-Esprit n'est pas et ne sera jamais une option pour l'Église. Le Saint-Esprit n'est pas cette option que tu rajoutes à ta voiture quand tu achètes une voiture neuve. Le Saint-Esprit n'est pas une option. Tout simplement, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'Église. Est-ce que tu entends ce que je te dis, ma bien-aimée, mon bien-aimé? Le Saint-Esprit n'est pas et ne sera jamais une option pour l'Église, tout simplement parce que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'Église. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie chrétienne. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de ministère. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas la puissance de Dieu. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie chrétienne véritable et épanouie. Alléluia. Voyons maintenant, pour avancer, ce qu'est l'Église. Puisque nous sommes en train de parler de l'Église, il est normal que nous puissions aussi dire, en quelques mots, sans trop s'étendre, parce que nous devons aller de l'avant, qu'est-ce qu'est l'Église? L'Église vient du grec « ecclesia », qui littéralement signifie « assemblée ». Non pas « rassemblée », mais « assemblée ». Alléluia. Ce mot « ecclesia » tire sa racine du verbe signifiant « appeler hors de »,« sorti de ». Alléluia. Et en Jean 17, au verset 6, Jésus-Christ qui parle à son Père déclare « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. » Cette portion de l'Écriture sainte, mon frère, ma sœur, nous donne des informations très importantes sur ce qu'est véritablement l'Église. Première chose, l'Église est un ensemble d'hommes à qui Jésus, Christ de Nazareth, fait connaître le nom de son Père. Deuxièmement, l'Église est un ensemble d'hommes que Dieu prend du milieu du monde, qu'il tire du milieu du monde et qu'il donne à son Fils bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth. Troisièmement, l'Église est un ensemble d'hommes qui gardent la parole de Dieu, c'est-à-dire qui la mettent fidèlement en pratique, qui l'observent. Alléluia. Donc, concrètement, qu'est-ce que l'Église? L'Église, c'est l'ensemble de ceux qui ont accepté le salut en Christ et qui sont scellés du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Donc, cet écueil qu'est le rejet de la personne et de l'œuvre du Saint-Esprit est la cause de l'état déplorable, j'insiste, de l'état déplorable de l'Église du Seigneur aujourd'hui. Il est temps que nous fassions vraiment retentir ces sonnettes d'alarme. Arrêtons de nous endormir sous nos lauriers. Arrêtons de nous contenter, comme le dit si bien l'évangéliste Reinhard Bonnke, qui dit que les chrétiens aujourd'hui se contentent d'un Alléluia, une fois par an. Alors que la vie du chrétien doit proclamer l'Alléluia chaque jour. Alléluia. Les chrétiens aujourd'hui sont devenus des érémistes de la foi, des érémistes des Alléluia. Alors que les chrétiens doivent être des milliardaires de l'Alléluia. Chaque jour, loué soit Jéhovah. Alléluia. Alléluia. Alors, quel est l'état spirituel de cette église des temps de la fin? Quel est l'état de l'église aujourd'hui, mon frère, ma sœur? Parce que je viens de dire que l'état de l'église est déplorable. Je persiste et je signe. Alléluia. Quel est l'état alors spirituel de l'église des temps de la fin? Dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, je vais lire les versets 15 et le verset 17b. Il est écrit, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ?» Pas froid et bouillant, mais froid ou bouillant. « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai. Je te vomirai de ma bouche. » Donc, le Seigneur est prêt à vomir son église. Vous vous rendez compte? Ça ne vous donne pas la chair de poule, cela? Parce, et au verset 17b du troisième chapitre du livre de l'Apocalypse, il est écrit, « Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Alors, très concrètement, quel est l'état spirituel de l'église aujourd'hui, de cette église des temps de la fin? L'église est tiède. L'église est malheureuse, l'église est misérable, l'église est pauvre, l'église est aveugle et l'église est nue. Alléluia. Et toutes ces choses sont en fait la manifestation de l'arrogance de cette église des temps de la fin. L'église des temps de la fin est arrogante. Alléluia. Alléluia. Et cette arrogance est en fait la manifestation, l'expression de son manque de liberté véritable. Que déclare l'Église aujourd'hui? Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Mais mon frère, ma sœur, de quelle richesse s'agit-il? De quel enrichissement parle cette Église aujourd'hui? Cette richesse, cet enrichissement dont se targue, dont se vante l'Église d'aujourd'hui, ne serait-ce pas toutes ces choses qu'elle considère comme des gains et qui sont en fait des pertes et qui l'appauvrissent? Ne serait-ce pas cette boue dans laquelle elle se vautre déjà depuis des lustres et qui la souille? Alléluia! Mon frère, ma sœur, écoute-moi bien. Écoutez-moi bien. La vraie richesse de l'Église, c'est son époux, Jésus-Christ de Nazareth. La vraie richesse de l'Église, c'est la connaissance de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la connaissance de Jésus-Christ permet à l'Église d'accéder à l'excellence. La vraie richesse de l'Église, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Et le vrai enrichissement de l'Église, c'est le gain de la personne de Christ. Alléluia. Le manque de réalisme, de pragmatisme spirituel et de caractère, ne sont-ce pas là une prison sans barreaux dans laquelle l'Église s'est laissée enfermer par son ennemi le plus irréductible? Alléluia. N'est-ce pas que les prisons sans barreaux sont les plus efficaces? Oui, mon frère, ma sœur. Les prisons sans barreaux sont les plus efficaces. Bien sûr, tu me diras, s'il n'y a pas de barreaux, moi je m'en vais. Mais au moins là, tu vois quand il y a des barreaux et quand il n'y en a pas. Mais les prisons sans barreaux, j'insiste, sont les plus efficaces. Pourquoi je dis cela? Parce que les prisons sans barreaux nous rendent complètement totalement, aveugle et irréaliste. Or, le fait d'être aveugle et irréaliste prive l'Église aujourd'hui de caractère et d'identité. Alléluia. Or, il se trouve que l'Église du Seigneur est empêtrée dans une sérieuse crise identitaire, et cela depuis des lustres. Et quelles sont alors les conséquences de cette crise identitaire de l'Église aujourd'hui? Plusieurs conséquences sont la cause et ont pour leur cause cet état de fait qui est la crise identitaire qui gangrène l'Église du Seigneur aujourd'hui. Je t'invite en Matthieu chapitre 16, du verset 18 au verset 19, nous revenons à ce que le Seigneur a dit quand il a parlé pour la première fois de son Église. Jésus-Christ a déclaré à Pierre, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Et encore en Ésaïe au chapitre 61, du verset 1 au verset 3, il est écrit de Jésus, c'est le prophète Ésaïe qui prophétise sur Jésus et il déclare « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. » Alléluia. Donc concrètement, mon frère, ma sœur, l'Église du Seigneur ne manifeste sa liberté qu'en exerçant toutes ses œuvres avec efficacité. Alléluia. Avec efficacité et avec fidélité. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alors, quelles sont ses conséquences par rapport à ce que nous venons de lire? Les portes du séjour de mort prévalent contre l'Église. L'Église a perdu les clés du royaume des cieux. L'Église n'évangélise plus. L'Église ne guérit plus les cœurs brisés. L'Église ne libère plus et ne délivre plus. L'Église ne publie plus l'année de grâce de l'Éternel. L'Église ne publie plus l'année de vengeance de l'Éternel. L'Église n'apporte plus la consolation aux affligés. L'Église ne donne plus ce merveilleux diadème. L'Église ne donne plus cette merveilleuse huile de joie. L'Église ne donne plus ses vêtements de louange. Tout simplement, l'Église ne multiplie plus. Alléluia. Et toutes ces choses que nous venons d'énumérer sont dues au fait que l'Église manque de respect et de considération pour la personne glorieuse de Dieu le Saint-Esprit et de son œuvre. Mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit est le seul et unique garant de la liberté de l'Église. Alléluia. Au fait, c'est quoi la liberté, puisque nous parlons de liberté? Il faut bien savoir ce que c'est. Selon le dictionnaire des mots et des expressions bibliques que j'ai consulté, il est écrit que la liberté correspond à l'état d'une personne qui ne dépend d'aucune autorité arbitraire. J'insiste, arbitraire. Pourquoi j'insiste sur le mot arbitraire? Parce que ce mot fait référence à une autorité usurpée, à une autorité dominatrice, esclavagiste. Alléluia. À une tyrannie. Au despotisme. Alléluia. Nous disons donc sans aucune hésitation que le seul qui ait tous les droits sur l'Église, c'est et ça reste à jamais Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Pourquoi je dis cela? Pourquoi je le dis avec tant de véhémence, encore une fois? Eh bien, vous lirez Colossiens chapitre 1er, verset 19. Parce que Jésus-Christ est la tête de l'Église qui est son corps. Vous pouvez lire Colossiens chapitre 1er, verset 18 à 19. Vous pouvez lire Colossiens chapitre 2, verset 10. Vous pourrez lire Éphésiens chapitre 1er, verset 22. Vous pourrez encore lire Éphésiens chapitre 5, verset 23. Pourquoi j'insiste encore? Parce que Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Alléluia. Et cela, vous pourrez le lire en 1 Pierre chapitre 2, verset 9, et en Apocalypse au chapitre 1er, le verset 5b. Alléluia. Alors la question, concrètement, la question aujourd'hui, c'est de savoir si Dieu parle véritablement de liberté à son Église. L'Église d'hier, l'Église de maintenant et l'Église de demain. Est-ce que Dieu parle véritablement de liberté à son Église? Alléluia. Moi, je le confirme que Dieu parle de liberté à son Église, d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Alléluia. Et Galates 5, 13 me conforte dans ma conviction. Qu'est-ce qui est écrit en Galates chapitre 5 au verset 13? Il est écrit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, c'est-à-dire par l'amour, serviteurs les uns des autres. Alléluia. Donc cette portion de l'Écriture sainte est très explicite quant à la liberté à laquelle l'Église du Seigneur est appelée. Alléluia. Alléluia. Cette liberté à laquelle l'Église est appelée est en soi, mon frère, ma sœur, une conséquence de la victoire et du triomphe de l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ de Nazareth. Je dirais même plus, elle en est l'expression, la manifestation tangible. Dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, du premier verset au verset 2, l'apôtre Paul déclare « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, en Jésus-Christ. » Alléluia. En effet, virgule, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Alléluia. Cette liberté qui est l'apanage de l'Église du Seigneur est en fait une invitation à demeurer en Christ, c'est-à-dire à persévérer dans l'obéissance et la mise en pratique de sa doctrine, de son enseignement. Alléluia. Et l'esprit de vie en Jésus-Christ est la manifestation ostensible de la liberté de l'Église du Grand Roi. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire et d'affirmer que l'Église manifeste véritablement sa liberté en vivant comme Christ a vécu et en insufflant cette vie de Christ aux hommes. Alléluia. Donc, l'esprit de vie en Christ parle de ces sels de la terre, de ces lumières de la terre, de ces pierres vivantes qui doivent composer l'Église du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il est à noter, chers frères et sœurs, que ces pierres vivantes sont porteuses de vie et ont en elles la capacité divine de transmettre la vie de Christ par la puissance glorieuse de Dieu, le Saint-Esprit. Alléluia. En 1 Corinthiens, au chapitre 15, au verset 45, il est écrit, je lis pour la gloire de notre Dieu. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Vivifiant. Alléluia. Donc cette liberté à laquelle est appelée l'Église est la réponse à ce cri poussé par l'apôtre de Jésus-Christ, notre frère Paul, qui s'est écrié en Romains chapitre 7 au verset 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Alléluia. Qui délivrera l'Église du corps de cette mort? Cette liberté, mon frère, ma sœur, est véritablement un hymne à la vie que le Seigneur a composé pour son Église. Oui, la liberté est un hymne, un cantique à la vie que l'Éternel des armées a composé pour l'Église. Alléluia. 1 Pierre 2, versets 15 à 16 nous dit, « Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. » Alléluia. Ô Seigneur, ta parole est tellement merveilleuse. Cette liberté permet à l'Église du Seigneur de fermer la bouche aux hommes ignorants et insensés par la pratique persévérante du bien. Alléluia. Donc, je dis que par la pratique du bien, l'Église exprime et manifeste sa liberté en Jésus-Christ. Alléluia. La pratique du bien permet à l'Église de surfer sur la vague de la liberté. Il est à noter que le Seigneur met en garde son Église contre la tentation d'utiliser sa liberté, cette liberté, comme un voile pour couvrir la méchanceté. Car il est écrit en 1 Pierre 4:8, « Seul l'amour couvre une multitude de péchés. » Alléluia. Alléluia. Ne dit-on pas que ma liberté s'arrête là où commence la liberté de l'autre? Et en 1 Corinthiens 8, au verset 9, il est écrit, « Prenez garde !» toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Alléluia. Alléluia. Donc, la liberté de l'Église la responsabilise vis-à-vis des faibles. Et la suite de cette portion de l'Écriture est vraiment parlante. 1 Corinthiens 8, 10 à 12 déclare, « Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles, sa conscience en lui qui est faible ne le porterait-elle pas à manger de viande sacrifiée aux idoles ? Et ainsi, le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. » Cela est tellement clair. C'est comme de l'eau de roche. C'est limpide. Alléluia. Et j'espère que vos oreilles entendent ces choses en ce moment. Alléluia. Et je dirais, j'espère que nos oreilles à tous, parce que je suis aussi concerné. Nous sommes tous concernés. Alléluia. Cette liberté, quand elle n'est pas utilisée d'une manière responsable, elle devient une arme de destruction massive. Elle devient une arme d'avilissement. Elle devient une source de souffrance. Alléluia. L'irresponsabilité de l'Église quant à la liberté qui lui a été acquise par son époux l'a conduit à pécher et contre son époux et contre les enfants, les créatures du Seigneur. Attention, attention! Et je vous inviterai à lire très attentivement et à méditer très attentivement la première épître de notre frère Paul aux Corinthiens au chapitre 10 du verset 23 au verset 33. C'est très explicite, mon frère, ma sœur. Il y a tant de choses à dire encore concernant ce sujet. Parce qu'il faut que l'Église comprenne qu'un prix a été payé. Il y a quelqu'un qui a payé le prix fort, qui a donné sa vie, quelqu'un qui a payé de sa vie pour cette liberté, pour que l'Église puisse jouir, je dis bien jouir de cette liberté. Et ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Fils unique du Dieu vivant. Alléluia. Il a ainsi, au travers de son sacrifice à la croix du calvaire, honoré sa bien-aimée l'Église comme jamais, je dis comme jamais, aucune autre épouse ne sera honorée. L'Église a été honorée par son époux, Jésus-Christ, comme jamais une autre épouse ne sera honorée. Il lui a assigné, écoutez-moi bien, Jésus-Christ, l'époux de l'Église, a assigné à son épouse l'Église l'honneur de la reine des reines, étant elle-même l'épouse du roi des rois. Alléluia. Une Église libre et jouissant de cette liberté pour proclamer la gloire du ressuscité, voilà l'épouse honorée et occupant la place lui assignée par son époux. C'est cela l'expression de la volonté souveraine du Dieu vivant, mon frère, ma sœur. Où est le problème encore? Vous vous rappelez des préoccupations que j'ai émises quand nous avons commencé cet enseignement? Quelles étaient ces préoccupations? Pourquoi l'Église du Seigneur manque tant de puissance et d'autorité? Pourquoi si peu de miracles dans nos églises? Pourquoi l'Église des temps de la fin a perdu sa flamboyance et son rayonnement spirituel? Pourquoi cette Église n'est plus militante et conquérante? Pourquoi l'Église n'est plus cette formidable machine de reconquête et de conquête qui pille et ravage celui qui a pillé et ravagé? Pourquoi ce manque évident de caractère céleste de l'Église? Pourquoi cette crise identitaire persistante au sein de l'Église? Et il y aurait encore tant de choses, il y aurait encore pléthore de questions. Il y a tant de choses qui ne vont pas aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Mais est-ce qu'il y a des hommes capables de se réveiller et de regarder vraiment clairement ce qui se passe et de tirer des sonnettes d'alarme? Dieu cherche aujourd'hui ces hommes et ces femmes capables de tirer ces sonnettes d'alarme pour réveiller l'Église qui est endormie, pour sortir l'Église de son hibernation spirituelle. Alléluia. Je disais donc, où est le problème? Rappelons-nous ce que nous avons dit en amont de notre enseignement, qui est le fait que l'Église a à voir avec l'arbre de vie qui est un arbre céleste. Donc l'Église est donc une œuvre céleste. et doit de ce fait revêtir son caractère céleste afin de manifester aux autorités et aux dominations la sagesse infiniment variée du Dieu de l'Église. Alléluia. Il y a une question qui serait légitime de se poser, c'est de savoir qu'est-ce donc le caractère céleste de l'Église? Et nous savons que le céleste fait référence à Dieu, à son amour infini, à sa puissance infinie, à sa sainteté infinie, à sa majesté infinie, à sa justice infinie, à sa droiture infinie, à sa perfection infinie, à sa distinction infinie, à sa sagesse infinie, bref, à sa gloire infinie, incomparable, inimitable et insondable. Donc, le caractère céleste de l'Église, c'est donc l'ensemble de toutes ces choses qui lui permettent d'être l'empreinte de Christ et le reflet de la gloire de Christ. Alléluia. Comme Christ lui-même est l'empreinte de la personne du Père et le reflet de sa gloire. Alléluia. Alléluia. Le caractère céleste de l'Église, mon frère, ma sœur, c'est encore l'ensemble de toutes ces choses qui émanent d'elle et qui permettent aux hommes de voir et de toucher Christ dont elle est le corps. Alléluia. Ceci étant dit, répondons maintenant à notre fameuse question de savoir où est le problème. Le Seigneur de l'Église a appelé son Église à la liberté et non au libertinage. Donc le problème, c'est le libertinage. Il y a du libertinage dans l'Église du Seigneur. Alléluia. Voilà le problème. Voilà la source des malheurs de l'Église des temps de la fin. Il y a du libertinage, tant au niveau des dirigeants qu'au niveau du peuple. Nous sommes tous concernés, même moi qui parle. Nous devenons des libertins et des libertines. Et mais c'est pas à cela que nous avons été appelés, bien-aimés. Nous devons bien comprendre que la liberté et le libertinage n'ont rien de commun. C'est le jour et la nuit. Alléluia. J'ai envie de dire, écoutez-moi bien. J'ai envie de dire et je le fais. Je me donne cette autorisation de le faire devant vous. La liberté est un don parfait, une grâce excellente qui vient d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a aucun changement ni ombre de variation. Alors que le libertinage est un don imparfait, une mauvaise grâce venant des profondeurs du Père des Ténèbres, chez lequel il n'y a que changement et ombre de variation. Alléluia. Donc, la liberté, c'est le jour avec un beau ciel bleu, alors que le libertinage, c'est la nuit avec un ciel sans lune et sans étoiles. La liberté, c'est la lumière, alors que le libertinage, ce sont les ténèbres. Or, nous savons qu'il est irrémédiablement impossible à ces deux visions de coexister, et qui plus est, de coexister pacifiquement. La lumière et les ténèbres ne peuvent coexister, ne peuvent pas coexister pacifiquement. Et dès les premiers instants de la création, le Dieu créateur met en exergue cet aspect des choses. Alors même que la terre est informe et vide, dit la parole de Dieu, et qu'il y a des ténèbres à la surface de l'abîme, le Dieu créateur vient mettre de l'ordre dans ce céleste désordre en parlant. Et il déclare en Genèse chapitre 1 verset 3, Dieu dit « que la lumière soit ». Et Genèse chapitre 1 verset 3 toujours nous déclare « Et la lumière fut ». Donc Dieu a parlé pour rompre le désordre céleste qui régnait alors. La parole de Dieu, mon frère, ma sœur, vient toujours mettre de l'ordre là où il y a du désordre. Alléluia. Il y avait du désordre et Dieu a parlé « Que la lumière soit et la lumière fut ». Mais au sujet de la lumière, la Bible nous gratifie d'un élément très important. Quel est cet élément? Cet élément est que Dieu en personne, le Créateur, a trouvé que la lumière était bonne, que c'était une bonne chose. Or, nous savons, vous et moi, qu'il est le Père qui donne toujours des bonnes choses à ses enfants. N'est-il pas écrit en Matthieu chapitre 7 au verset 11? Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Il s'agit donc de demander de bonnes choses. Mais souvent nous demandons à Dieu des choses pour satisfaire notre ego, pour satisfaire notre chair. Or les bonnes choses, ce sont les choses qui visent à élever, à exalter Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Cette lumière est donc incontestablement une très bonne chose que le Seigneur veut donner, a donné à son Église. Alléluia. Vous me direz, il est impossible de demander une chose si on ne la connaît pas, si on n'est même pas au courant que cette chose existe. Alléluia. Alléluia. Eh bien, pour ce faire, plongez les regards de votre entendement dans la loi parfaite qui est la parole de Dieu. Peuple du grand roi, lisez et méditez régulièrement la parole de Dieu. Recevez la faim et la soif de la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Car au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui est n'a été fait sans la parole. Et cette parole a été faite chair. Et elle est venue habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Alléluia. Alléluia. Lisez et méditez la parole de Dieu. Arrêtez de vous distraire. Le libertinage est une conséquence du fait aussi que nous ne lisons pas, nous ne méditons pas la parole de Dieu. Nous rejetons la parole de Dieu. Nous n'aimons pas cette parole. Or, cette parole nous a été donnée pour notre liberté, car il est écrit, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous rendra réellement libre. Alléluia. Alléluia. Les hommes, l'Église vit dans l'erreur. Les hommes, les enfants de Dieu vivent dans l'erreur. Et la Bible nous donne une définition claire de ce qu'est l'erreur. En Matthieu chapitre 23, verset 29, il est dit, « Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur, virgule, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Donc concrètement, l'erreur, bibliquement, c'est quoi? L'erreur, c'est ne comprendre ni les Écritures saintes, ni comprendre la parole de Dieu et la puissance de Dieu. Alléluia. Donc, celui qui ne comprend pas les Écritures et qui ne comprend pas la puissance de Dieu est dans l'erreur. Et Satan le manipule, il en fait son pantin. Alléluia. Alléluia. C'est bon de le savoir, mon frère, ma sœur. Alléluia. Donc, quand Dieu a créé la lumière, comme nous venons de le voir, qu'est-ce qu'il a fait tout de suite après? En Genèse, chapitre 1, verset 4, on nous dit, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Et par cette séparation, dès l'origine de la lumière avec les ténèbres, Dieu marque ici sa volonté éternelle de voir son peuple et l'Église à jamais séparés du royaume des ténèbres, de ses pompes et de ses œuvres. Alléluia. Alléluia. Tout ceci, mon frère, ma sœur, doit nous amener à comprendre qu'il n'y a que deux voies possibles. Dieu, c'est-à-dire le bien, la vie. Satan, c'est-à-dire le mal, la mort. Ce sont ces deux choses que la Bible appelle le chemin étroit et le chemin large. Alléluia. L'un conduit à la vie éternelle, au salut, c'est le chemin étroit. Et l'autre à la mort éternelle, qui est la perdition, c'est le chemin large. Et je vous demanderai, s'il vous plaît, de lire et de méditer le chapitre 30 du livre du Deutéronome, les versets 15 et 19. Alléluia. Alléluia. Donc, concrètement, afin de bien comprendre ces choses, qu'est-ce qu'est la liberté? La liberté, c'est la possibilité, le pouvoir d'agir sans contrainte. C'est le pouvoir d'agir dans une société organisée selon sa propre détermination dans les limites des règles établies, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'est le libertinage? Vous allez voir que c'est vraiment le jour et la nuit. Le libertinage est un désordre moral, un dérèglement dans les mœurs. Quelles sont les caractéristiques du libertin ou de la libertine? Première caractéristique, rejet de toute contrainte. Est souvent incrédule. Les libertins sont souvent incrédules. Ils sont déréglés dans leurs mœurs. Ils sont débauchés. Ils sont dissolus et ils sont dévergondés. Dévergondés. Alors je dis, moi, que le libertinage apporte le monde et sa convoitise dans l'Église du Seigneur. Le libertinage a pour effet pervers de vouloir faire coexister la lumière et les ténèbres. Le libertinage est le géniteur de l'arrogance de l'Église des temps de la fin. Le libertinage est le parent de la tiédeur de l'Église des temps de la fin. Le libertinage, mon frère, ma sœur, le libertinage est à l'origine de l'infortune, de la misère, de la pauvreté, de l'aveuglement et de la nudité de l'Église des temps de la fin. Le libertinage est une des principales causes des taches et des rides qui gangrènent l'Église du Seigneur. Or, rappelle-toi, il est écrit que Jésus-Christ, l'époux de l'Église, viendra chercher une Église sans taches ni rides. Alléluia. Que dit le Seigneur de l'Église par rapport au libertinage? En Galates chapitre 5 au verset 13, il est écrit « Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. » Alléluia. Il faut méditer ces choses, ma bien-aimée, mon bien-aimé. Et tu liras encore Galates chapitre 6 du verset 7 au verset 8 et encore Galates chapitre 5 du verset 16 au verset 18. Toutes ces portions de l'Écriture sainte nous révèlent plusieurs attentes qui sont dans le cœur du Seigneur de l'Église. Quelles sont-elles ces attentes? Eh bien, le Seigneur voudrait, de tout son cœur, le Seigneur veut que l'Église crucifie la chair avec toutes ses passions et ses désirs. Que l'Église vive véritablement la vie par l'Esprit, comme Christ l'a vécu. Que l'Église se laisse instruire, guider, conseiller et protéger par le Saint-Esprit. Que l'Église s'occupe avec zèle et enthousiasme des affaires du Père. Que l'Église se sépare définitivement des œuvres de ténèbres. Que l'Église refuse tout joug étranger. Alléluia. Tout ceci, ma bien-aimée, mon bien-aimé, doit nous faire comprendre que le Seigneur de l'Église, que le chef de l'Église, que la tête de l'Église ne veut pas que son corps vive un mélange des genres. Alléluia. L'Église se doit donc de vivre par l'Esprit et de s'aimer pour l'Esprit. Dans l'Église du Seigneur, il ne peut être une question de compromission entre l'Esprit et la chair. Alléluia. Alléluia. Il tient absolument à être sanctifié par cette Église, celle qui s'est choisie pour en faire son épouse, celle qu'il va présenter à son Père, celle pour qui il n'a pas hésité une seule seconde à donner sa vie. Il est impératif, mon frère, ma sœur, que l'Église du Seigneur traite avec la plus grande fermeté et la plus grande des rigueurs cette gangrène du libertinage qui constitue un frein à la croissance spirituelle de l'Église. Bien sûr, on pourrait se poser la question de savoir comment l'Église pourrait traiter ce problème du libertinage. Eh bien, l'Église, en confrontant systématiquement ce libertinage qui est une œuvre de la chair, au modèle de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui consiste en la marche par l'esprit du Dieu vivant. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Donc, pour véritablement traiter ce problème de libertinage, l'Église se doit de confronter ce libertinage qui est une œuvre morte, qui est une œuvre de la chair, à l'esprit de vie en Jésus-Christ, qui est la marche par l'esprit, la vie par l'esprit du Dieu vivant. Et ce mode de vie en Jésus-Christ, cet esprit de vie en Jésus-Christ est très importante parce qu'elle permet à l'Église du Seigneur d'opposer le fruit de l'Esprit aux œuvres de la chair. En effet, le fruit de l'Esprit manifeste la présence et l'approbation divine au sein de l'Église. Alléluia! N'est-il pas écrit en Romains chapitre 8, 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» L'Église se doit de repousser avec la plus grande des énergies, avec la dernière des énergies, et mettre à mort le libertinage qui est une œuvre de la chair. Quelles sont les œuvres de la chair? Je vais juste les citer. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Et concernant les sectes, il est à noter que les sectes dans l'Assemblée ont en fait une partie bénéfique et une partie maléfique. Bénéfique dans la mesure où les sectes permettent dans une assemblée de manifester ceux qui sont véritablement approuvés par le Seigneur. Alléluia. L'envie est une œuvre de la chair. L'ivrognerie est une œuvre de la chair. Les excès de table, la gloutonnerie, la gourmandise, ce sont des œuvres de la chair. Car celui qui est gourmand, il ne peut maîtriser sa chair. Il est au contraire dominé par elle. Donc le libertinage est donc le fait de tolérer, et je dirais même plus, le fait d'accepter toutes ces œuvres dans l'Église. Et on pourrait ajouter beaucoup de choses. La falsification de la parole de Dieu, l'enseignement de fausses doctrines, la compromission des serviteurs, la recommandation humaine. Aujourd'hui, les mandats sont donnés par les hommes. Ce n'est plus Dieu qui appelle, ce n'est plus Dieu qui mandate, mais ce sont les hommes qui mandatent leurs amis. Et ceux qui sont mandatés par les hommes n'ont pas de provision. Et ils ne peuvent pas nourrir véritablement le peuple de Dieu. Ils ne peuvent pas apporter la vérité qui a franchi le peuple au peuple de Dieu. C'est une gangrène que cette histoire de recommandation humaine. Et je prie vraiment de tout mon cœur le Seigneur d'y mettre un ordre. Son ordre à lui. Le libertinage, mon frère, ma sœur, est attisé dans l'Église par l'ennemi de nos âmes afin d'occulter la vérité. Or, la vérité est la puissance de l'Église qui en est la colonne et l'appui, comme cela est écrit en 1 Timothée chapitre 3, verset 15. Maintenant, pour terminer notre enseignement, nous allons voir les solutions bibliques qui nous sont données pour mettre un terme au libertinage dans l'Église. La première de solutions, c'est la repentance sincère et véritable. 2 Chroniques 7:14. Deuxièmement, demander le Saint-Esprit et l'inviter véritablement à prendre sa place. Jean 16:8, 13-14 et Luc 11:13. Troisièmement, demander au Saint-Esprit de nous remplir, mais de nous remplir constamment. Éphésiens 5:18. Demander le fruit de l'Esprit. Et nous savons que le fruit de l'Esprit, les caractéristiques du fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Cinquièmement, revenir à la véracité de la parole de Dieu, à sa simplicité, à sa pureté, à sa clarté, à sa puissance. Hébreux 4:12-13. Sixièmement, prier pour demander au maître de la moisson de susciter et d'envoyer des ouvriers dans sa moisson qui est tellement grande alors qu'il y a si peu d'ouvriers. Luc 10:2. Septièmement, prier pour que les ouvriers qui sont déjà en place accueillent fraternellement ce que Dieu suscite et envoie. 3 Jean 1:8-10. Huitièmement, racheter le temps. Éphésiens 5:16. Neuvièmement, examiner ce qui est agréable au Seigneur. Éphésiens 5:10. Dixièmement, ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Éphésiens 5:11. Onzièmement, savoir discerner les temps dans lesquels nous sommes. Romains 8:11. Douzièmement, nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Romains 8:12. Treizièmement, revêtir les armes de la lumière. Romains 8:12. Quatorzièmement, marcher honnêtement, Romains 8:13. Quinzièmement, revêtir Christ, Romains 8:14. Seizièmement, ne pas prendre soin de la chair pour en satisfaire les convoitises, Romains 8:14. Dix-septièmement, offrir son corps à Dieu comme un sacrifice vivant, Romains 12:1. Dix-huitièmement, ne pas se conformer au siècle présent. Romains 12:1. Et dix-neuvièmement, se laisser renouveler dans son intelligence. Romains 12:2. Alléluia. Voilà les choses que le Seigneur a mises sur mon cœur pour son Église concernant cette gangrène qu'est le libertinage. Mon frère, ma sœur, je prie de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, de tout mon esprit, pour que nous puissions, qu'une clameur monte de la terre jusqu'au trône de Dieu pour réclamer l'éradication totale de cette gangrène, de cette maladie atroce qu'est le libertinage au sein de l'Église. Alléluia. Cher Père Céleste, Nous te bénissons pour ton grand amour. Nous te bénissons pour ta sagesse qui est infiniment variée. Nous te remercions parce que tu es celui qui prend soin de nous. Nous te remercions de garder ton alliance. Merci Père pour cet enseignement qui vise à nous rendre notre liberté, cette liberté que ton Fils bien-aimé Jésus-Christ nous a acquise à la croix du calvaire. Tu es vraiment le Père qui nous aime et qui connaît tous nos besoins. Merveilleux Saint-Esprit, nous sommes disposés à collaborer avec toi afin que ces choses soient gravées dans nos cœurs. Nous sommes disposés, cher Saint-Esprit, à collaborer avec toi afin que nous puissions pratiquer ces choses. Précieux Sauveur et Seigneur Jésus, merci pour la liberté que tu nous as acquise par ta mort et ta résurrection. Nous t'aimons très fort, Jésus. Gloire à toi le ressuscité. J'ai prié ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez tous bénis. Que toute personne qui écoutera cet enseignement, qui aura à cœur de vraiment suivre cet enseignement et le transmettre à un frère, à une sœur, que toute personne qui fera cela soit bénie, richement bénie. Et je prie pour ces personnes maintenant et je demande pour vous la bénédiction qui est au-dessus de toute bénédiction, c'est-à-dire le nom de mon Dieu qui est le vôtre aussi. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.